Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat. Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, face à la désertification du territoire en matière d'offres de soins de premier recours, les territoires s'engagent à améliorer cette situation. À titre d'exemple, je vous propose aujourd'hui d'écouter Madame Mathilde Garcin de l'agglomération Grand Angoulême, qui va nous présenter le plan d'action mis en place par sa collectivité face à cette situation préoccupante. Bonjour Mathilde.
Bonjour Jean-Michel.
Mathilde, avant que nous abordions le sujet de l'émission, pouvez-vous brièvement vous présenter aux auditeurs et auditrices ?
Oui, bien sûr. Donc, je travaille aujourd'hui au sein de Grand Angoulême en tant que directrice coopération intercommunale, prospective et santé. Donc, sur ce dernier sujet, je travaille avec un chargé de mission, Monsieur Ludovic Rouen, au sein d'une agglomération qui compte 38 communes. 38 communes depuis le 1er janvier 2017, 16 auparavant, et qui compte 140 000 habitants.
Comme je l'ai dit en introduction, le territoire fait face à une désertification médicale. Comment réagit l'agglomération Grand Angoulême face à cette situation préoccupante sur son territoire ?
Alors, Grand Angoulême s'est inscrit dans une démarche progressive depuis 2017. En effet, les élus du territoire ont pris conscience et ont pris acte de la situation et du risque de désertification médicale et ont pris la décision de faire réaliser par les services un diagnostic santé au cours de l'année 2018. Ce diagnostic a permis de mettre en évidence plusieurs points. Tout d'abord, le fait que la désertification était réelle sur ce territoire. Le fait aussi que sur à peu près tous les indicateurs en termes de santé, Grand Angoulême se retrouvait en dessous des moyennes nationales, que ce soit en termes de nombre de médecins généralistes disponibles, nombre de sages-femmes, dentistes, en gros sur tout le domaine d'offres de soins de premier recours. Ce diagnostic a aussi permis de rappeler et de mettre en évidence que la santé n'avait pas de frontières, et notamment pas de frontières administratives. Et il a aussi pointé la nécessité de ne pas s'intégrer dans une logique interventionniste, mais bien d'être au service des professionnels de santé. Puisqu'on est bien sur un domaine qui est très largement exercé à titre libéral, donc qui ne relève pas en premier lieu de la puissance publique. Donc ça, c'était la première étape, ce diagnostic. À l'issue de ce diagnostic, des premières pistes d'action ont été esquissées. Un chargé de mission a été recruté en 2019. En 2020, le nouveau conseil communautaire a décidé de désigner un conseiller délégué à la santé. Et Grand Angoulême s'inscrit maintenant dans une stratégie qui repose sur quatre axes. Le premier axe en matière d'amélioration de l'offre de soins de premier recours, c'est d'accompagner les projets de maisons de santé pluriprofessionnelles sur le territoire, ainsi que les projets de centres de santé. Le deuxième axe, c'est d'attirer et d'accueillir les professionnels de santé sur le territoire. Le troisième, c'est de promouvoir le territoire auprès des professions de santé, le faire connaître. Et le dernier, c'est de favoriser, faciliter la coopération de l'ensemble des acteurs, publics comme privés, et de préparer l'avenir.
Mathilde, maintenant que vous nous avez présenté les quatre axes stratégiques et pourquoi ils avaient été choisis, pourrait-on savoir là où les solutions retenues pour les mettre en œuvre sur votre territoire?
Oui, bien sûr. Donc, en ce qui concerne les deux premiers axes, nous nous inscrivons vraiment dans une logique d'accompagnement et de service aux acteurs de la santé. Pour le premier axe, le chargé de mission qui a été recruté en 2019 apporte un véritable soutien en termes d'ingénierie et en termes de conseils aux communes qui souhaitent développer des projets et soutenir des projets de maisons de santé pluriprofessionnelles ou de centres de santé, et aussi aux professionnels de santé, puisqu'il a ce genre de projets peuvent être portés par des professionnels de santé, mais peuvent aussi être parfois un petit peu à l'initiative des collectivités. Dans les deux cas, le chargé de mission écoute les besoins du collectif qui se préoccupe de ces sujets, essaye de rédiger pour eux si besoin des études, des documents, les accompagne dans la méthodologie, anime des réunions, rédige des comptes rendus, et surtout les met en relation avec les institutions de notamment de l'État, que ce soit la Caisse primaire d'assurance maladie ou l'ARS, qui sont des financeurs importants de ce type de structure. Pour ce qui est du deuxième axe, là aussi on est dans une logique de service, mais plutôt dans une logique de service individuel pour les professionnels de santé. En effet, notre objectif est de les inciter à s'installer sur le territoire. Donc on essaye, en s'appuyant sur la logique d'accompagnement des entreprises qui souhaitent s'installer sur le territoire, on souhaite les accompagner dans leur installation professionnelle. Ça peut être un accompagnement à la création d'activités économiques, avec conseils en matière de réglementation, de législation fiscale, accompagnement aussi sur la déclaration auprès des différents organismes, de l'URSSAF, etc. Ça peut être de l'information sur des locaux disponibles qui pourraient être vacants, et ça peut être même un premier accompagnement, une première étude de faisabilité. Ça peut être aussi les accompagner dans leur installation personnelle et familiale, comme par exemple proposer l'accompagnement du conjoint dans sa recherche d'emploi, puisque souvent les professionnels de santé vivent en couple, et l'emploi du conjoint fait partie des premiers freins à l'installation dans des zones plus rurales. Ça peut être aussi leur fournir des informations sur les principaux établissements culturels et sportifs, sur les établissements scolaires, les places d'accueil pour les jeunes enfants qui pourraient être disponibles. Bref, vraiment les accueillir et faciliter leur première démarche. Pour ce qui est du troisième axe, qui concerne la promotion du territoire, nous travaillons sur plusieurs axes, plusieurs actions. D'une part, la création d'un site internet spécifiquement dédié aux professionnels de santé qui leur présente les atouts du territoire en tant que professionnels de santé. C'est un site internet qui est intégré à un site qui s'appelle Absolument Angoulême et qui s'adresse de manière générale aux professionnels et aux entreprises qui souhaitent s'implanter sur le territoire de Angoulême. Par ailleurs, nous envisageons de développer des actions de communication spécifiques, que ce soit dans des médias spécialisés, sur des réseaux sociaux, mais aussi en nous déplaçant, éventuellement en partenariat avec d'autres collectivités, sur des congrès médicaux ou en organisant pour de futurs médecins ou des jeunes médecins qui sont encore remplaçants et qui ne sont pas encore installés, des opérations de découverte de notre territoire. Enfin, pour le dernier axe, qui porte sur la coopération et la préparation de l'avenir, nos actions sont vraiment inscrites là dans une logique de mise en réseau des différents acteurs publics et privés du territoire, que ce soit les communes du territoire de Grand Angoulême, que ce soit des relations de coopération avec le département de la Charente, avec les associations des professionnels de santé, mais aussi et surtout avec l'Agence régionale de santé et la délégation départementale de la Charente, qui est vraiment notre interlocuteur et notre principal partenaire.
Merci Mathilde. Au regard des différents aspects que revêt ce projet d'amélioration de l'offre de soins de premier recours sur votre territoire, pouvez-vous nous présenter les premiers résultats obtenus ?
Alors, comme je vous le disais lors de la préparation de l'entretien, plutôt que résultats, je vais surtout parler d'actions qui ont été concrètement mises en place. Elles sont toutes assez récentes, puisque la démarche, comme je disais, a commencé en 2018, et n'ont pas forcément toutes complètement porté leurs fruits. Néanmoins, il y a quand même deux résultats principaux qu'on peut relever et qui sont assez encourageants. Le premier, c'est le fait que depuis l'existence de ce diagnostic, depuis cette démarche de coopération, le dialogue entre les acteurs du territoire commence à se mettre en place. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas complètement abouti, mais là où les initiatives étaient complètement isolées, où chacun faisait dans sa commune, n'était pas forcément connu des autres, il commence à y avoir un véritable dialogue entre élus, notamment en conférence des maires autour de ce sujet. Et la question de la santé, sans être une prise de compétence intercommunale, commence à être vraiment un sujet de discussion en commun. Et cette logique de dialogue a pris corps par l'élaboration d'une convention qui réunit Grand Angoulême, l'Agence régionale de santé et les 38 communes du territoire. Cette convention précise qu'il y a vraiment une logique de dialogue, de non-concurrence entre les territoires, et que l'ARS et Grand Angoulême sont bien dans une logique de soutien des projets communaux et du territoire. Et pour aller encore plus loin, un autre résultat a été aussi finalement, toujours en termes d'absence de limitation de la concurrence entre les territoires, a été une action un petit peu sur les niveaux de rémunération qui pouvaient être proposés à des professionnels de santé ayant vocation à exercer sur des centres de santé. Il en existe un sur le territoire de Grand Angoulême et plusieurs à l'échelle de la Charente. Et certains professionnels de santé qui, au moment de leur processus de recrutement, ont pu être tentés de faire jouer la concurrence, de faire monter les enchères en termes de niveau de rémunération, se sont finalement vus opposer à une sorte de refus et les collectivités n'ont pas donné suite après avoir échangé. Et au final, il y a maintenant une sorte de consensus sur des niveaux de rémunération équivalents, quels que soient les centres de santé.
Au cours de notre échange, vous avez cité deux entités, les maisons de santé pluriprofessionnelles et les centres de santé. Pouvez-vous dire à nos auditeurs quelle est la différence entre une maison de santé pluriprofessionnelle et un centre de santé ?
Oui, tout à fait. Une maison de santé pluriprofessionnelle est en fait un regroupement de professionnels de santé libéraux, quel que soit leur domaine, médicaux ou paramédicaux, qui se regroupent pour exercer ensemble et pratiquer selon le format d'un exercice que l'on appelle un exercice coordonné. Ils partagent les fichiers et les informations relatives à leurs patients, cela leur permet de mettre en place des parcours de soins plus facilement. Il y a des réunions pour l'examen en pluridisciplinarité de cas ou de pathologies complexes qui nécessitent une prise en charge par différents types de professionnels. Et ces professionnels peuvent exercer en un lieu unique ou pas. Et ils sont accompagnés et soutenus financièrement par l'État, via la CPAM et les agences régionales de santé, pour mettre en œuvre cette coordination qui nécessairement nécessite des moyens en termes de logiciels, du temps. C'est autant de temps qu'on ne passe pas auprès des patients, le temps de coordination, de dialogue. Donc ça, c'est la maison de santé. Le centre de santé est une structure qui emploie des professionnels de santé en tant que salariés. Il existe des centres de santé privés et il existe des centres de santé publics qui peuvent être portés, par exemple, par un département ou par une commune. Dans ces cas-là, les professionnels de santé sont rémunérés directement et sont des agents territoriaux.
D'accord. Et donc cette notion de concurrence, vous auriez un exemple à nous donner ? Quel aspect ça peut prendre ?
Eh bien, par exemple, un médecin qui cherche un emploi dans une zone géographique dans laquelle plusieurs centres de santé sont en train de recruter au même moment, peut être tenté de, et c'est logique et humain, de négocier son salaire et de voir quelle commune est la mieux disante financièrement parlant pour lui. Donc ça peut être, si le médecin est un agent de la fonction publique, les marges de manœuvre sont plus réduites parce que ça s'inscrit forcément dans la grille de rémunération de la fonction publique hospitalière. Néanmoins, il existe des marges de manœuvre sur des à côté en termes de salaire qui peuvent être la mise à disposition d'un logement de fonction, qui peuvent être la mise à disposition d'un véhicule, ce genre de choses. Dans le cadre d'un médecin qui n'est pas agent public, qui n'est pas déjà fonctionnaire, même si les collectivités se réfèrent à la grille de la fonction publique hospitalière pour fixer les niveaux de rémunération, dans ce cas-là, c'est un agent contractuel et qui donc est un peu libre de négocier son niveau de salaire un peu autant qu'il le peut et autant que la collectivité est d'accord. Et on peut arriver parfois à des niveaux de rémunération très élevés.
Écoutez Mathilde, notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que vous êtes responsable du service prospective et coopération intercommunale à l'agglomération Grand Angoulême.
Mais merci beaucoup Jean-Michel.
Quant à vous, chers auditeurs, vous pouvez réécouter cette émission ou la télécharger sur le site radio.cnfpt.fr. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une prochaine émission.
Oxygène, les grandes causes nationales qui font débat.